Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration un peu plus poussée, on va dire, des sources qu'on a sur la figure de l'ogre dans les contes. On pense tous le connaître, hein, ce personnage, ce grand méchant des histoires de notre enfance. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'aller voir derrière cette image un peu classique. Qui est-il vraiment, cet ogre? C'est quoi ses caractéristiques? D'où il sort? Et puis surtout, son rôle, hein, pourquoi il est là dans ces récits? Bon, allez, on décortique ça ensemble.
Oui, et c'est une figure vraiment passionnante, beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée que l'image d'Épinal qu'on en a souvent.
Ah oui.
Mais oui, c'est un mélange assez étonnant de terreur pure, brute, et puis aussi, paradoxalement, d'une certaine forme de bêtise, de stupidité.
Alors, commençons peut-être par le portrait robot, si on peut dire. Quand on regarde les textes, les descriptions, l'image qui revient, c'est celle d'un monstre, oui, un géant, d'apparence humaine, mais difforme, grotesque souvent. Parfois même, on lit qu'il a un seul œil. Ça rappelle le cyclope, évidemment.
Oui, tout à fait.
Et puis, bien sûr, ce qui marque le plus, c'est cette obsession. Dévorer, manger de la chair fraîche. Et surtout, la chair des enfants. Ça, c'est glaçant. Hein. Il y a aussi des traits d'animaux qui reviennent tout le temps, non? Des dents pointues.
Oui, des dents de carnassier.
Voilà, acérées. On l'imagine vraiment comme un prédateur. Et puis, cet odorat. L'odorat hyper développé. La fameuse phrase « Je sens la chair fraîche ».
C'est presque sa signature, oui.
C'est ça. Ça donne vraiment l'impression d'un chasseur à l'affût, guidé par l'instinct. Bon, ça fait froid dans le dos.
Et ce portrait physique, il est pas choisi au hasard, hein, bien sûr. Tout est fait pour inspirer la peur, une peur viscérale. La taille gigantesque, déjà, ça symbolise une menace écrasante. On se sent tout petit face à ça. Et les traits animaux, les dents, l'odorat surdéveloppé, ça le connecte à une nature sauvage, non civilisée.
En dehors des normes.
Exactement. Prédatrice. Il n'est pas comme nous. Et cet odorat, particulièrement, ça renforce cette image du chasseur implacable qui traque sa proie de façon presque infaillible. Il incarne le danger à l'état brut.
Et le caractère va avec, j'imagine. Les textes parlent de cruauté, de violence.
Ah oui, une violence souvent gratuite, mue uniquement par cet appétit insatiable.
C'est ça. Mais alors, et c'est là que ça devient, je trouve ça vraiment intéressant, peut-être même la clé. Malgré cette puissance terrifiante, cette force brute, les textes insistent quasiment tous sur sa bêtise. Il se fait avoir, il se fait berner, parfois même ridiculisé par des héros qui sont physiquement bien plus faibles, mais tellement plus malins. C'est quand même un paradoxe, non?
C'est plus qu'un paradoxe, c'est essentiel. Cette stupidité, elle est vraiment cruciale pour que l'histoire fonctionne, pour la structure même du conte.
Ah d'accord.
Elle crée un déséquilibre qui est nécessaire. D'un côté, on a cette force physique colossale, presque surnaturelle, et de l'autre, une intelligence limitée, parfois carrément nulle.
Une faille, en somme.
Mais elle devient surmontable.
Pas par la force, du coup.
Surtout pas par la force, ce serait perdu d'avance. Non, la victoire s'obtient par l'esprit, par la ruse, par l'ingéniosité. C'est presque une nécessité narrative, en fait, pour que le petit, le faible, puisse l'emporter sur le grand effort.
D'accord, donc cette bêtise, c'est pas juste un détail pour faire rire, c'est vraiment ce qui permet au conte de tenir debout et de délivrer son message. Intéressant. Mais allons un peu plus loin. D'où il vient, ce personnage? Le mot « ogre » lui-même, il a une origine assez, assez sombre, non? Si on suit des sources qui parlent du latin « orcus ».
Oui, tout à fait. Orcus, en latin, c'était le dieu des enfers chez les Romains. Et par extension, le terme désignait les enfers eux-mêmes, le royaume des morts.
Ah oui, quand même. Ça pose le décor. Hein.
Ça situe d'emblée l'ogre dans une sphère infernale, liée à la mort, à l'engloutissement. Et d'ailleurs, les textes qu'on a consultés font très clairement le lien entre l'ogre de nos contes et des figures mythologiques beaucoup plus anciennes, des figures archaïques, vraiment.
On pense tout de suite à Cronos dans la mythologie grecque.
Oui.
Le titan qui dévorait ses propres enfants pour pas qu'il le détrône. C'est l'image même de l'ogre paternel terrifiant.
Exactement. Ou bien le Minotaure aussi.
Ah oui, le Minotaure.
Enfermé dans son labyrinthe.
Et qui se nourrissait de jeunes gens qu'on lui livrait en sacrifice. Mi-homme, mi-taureau. Une figure monstrueuse.
Et Polyphème.
Le cyclope.
Bien sûr, Polyphème.
Le géant à l'œil unique, dévoreur d'hommes, lui aussi. Et qui est vaincu.
Par la ruse d'Ulysse.
Pas par la force. Ulysse l'aveugle.
C'est ça, donc on voit bien que l'ogre des contes populaires s'étend quelque sorte l'héritier de tous ces monstres dévorateurs ancestraux. Il représente la persistance dans notre imaginaire collectif de peurs vraiment fondamentales, primitives. La peur d'être dévoré, la peur de la force brute incontrôlable, la peur de l'autre radicalement différent, monstrueux.
Les mythes antiques fournissent la matière première, en quelque sorte.
Oui, la terreur originelle, que le conte va ensuite reprendre, adapter, réutiliser à sa manière.
C'est fascinant de voir ces racines mythologiques si profondes. Et alors, comment cette figure ancestrale s'intègre dans l'univers plus spécifique des contes de fées, aux côtés des fées, des sorcières ? Les sources le classent clairement dans le merveilleux, hein ?
Oui, il appartient à cet univers magique. Il n'est pas soumis aux lois de notre réalité. Il a des pouvoirs, des attributs surnaturels.
Chez Perrault, l'ogre possède ses fameuses bottes de 7 lieues.
Ah, les bottes !
Des bottes magiques qui, non seulement s'ajustent parfaitement à la taille de celui qui les chausse, ce qui est déjà pas mal, mais qui surtout permettent de parcourir une distance énorme. 7 lieues, c'est près de 35 kilomètres, je crois.
C'est ça, une distance considérable.
En une seule enjambée.
C'est un pouvoir qui défie complètement l'espace et le temps.
Totalement. Et ce pouvoir n'est pas juste un gadget, hein. Ces bottes, elles symbolisent une maîtrise quasi divine de l'espace. Une capacité à se déplacer à une vitesse surhumaine. Ça rend l'ogre encore plus redoutable. Il peut surgir n'importe où, très vite.
C'est terrifiant, oui.
C'est terrifiant. Et ce n'est pas le seul pouvoir. Dans un autre conte de Perrault, le chaboté.
Ah oui.
L'ogre a un autre don assez extraordinaire. La métamorphose. Il peut changer de forme comme il veut.
Oui. Et il s'en sert d'abord pour impressionner le chaboté, d'ailleurs. Il se transforme en lion pour montrer sa puissance, sa dangerosité.
Mais ça se retourne contre lui, ça.
Exactement. Ce pouvoir de métamorphose, qui montre bien sa nature instable, trompeuse, eh bien, ça devient sa plus grande faiblesse. Le chaboté, malin comme tout, le flatte, le met au défi et le pousse à se transformer en quelque chose de tout petit, une souris.
Voilà, une souris. Quelque chose de minuscule et de vulnérable. Et là, évidemment, pour un chat...
C'est vite réglé, hop, croqué. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que même ces pouvoirs surnaturels ne sont pas infaillibles. Ils ont une faille, une faiblesse que l'intelligence, la ruse peut exploiter.
Donc même sa magie a ses limites. Et son lieu de vie aussi, ça participe à cette ambiance étrange, dangereuse. Il vit jamais au milieu des autres, hein, toujours à l'écart.
Toujours à l'écart, oui. Parfois, c'est une cabane isolée au fin fond de la forêt, un endroit qui peut attirer les enfants perdus comme un piège.
Un peu comme la maison en pas d'épices de la sorcière dans Hansel et Gretel.
Exactement, même principe. Et d'autres fois, c'est carrément un château, parfois décrit comme magnifique d'ailleurs, mais qui fonctionne aussi comme une prison dorée, un leurre pour attirer ses victimes.
Un piège, quoi qu'il arrive.
Isolé, la forêt profonde, le château lointain, ils sont très symboliques. Il marque vraiment la frontière entre le monde connu, civilisé, sécurisant, le village, la maison familiale, et puis l'inconnu, le sauvage, le dangereux, le royaume du monstre.
C'est là que le héros doit aller.
C'est souvent là que le héros ou l'héroïne doit s'aventurer, oui, en quittant la sécurité du foyer. Pour affronter ses peurs, pour passer des épreuves, pour prouver sa valeur. L'habitat de l'ogre, c'est une étape clé. Souvent terrifiante, mais nécessaire dans le parcours initiatique du personnage.
Et cette idée du monstre tapis hors du monde connu, ça semble assez universel finalement. On retrouve des figures similaires ailleurs qu'en Europe. Les sources donnent quelques exemples, il me semble.
Ah oui, tout à fait. L'ogre n'est pas du tout une exclusivité européenne. Si on regarde par exemple du côté de l'Allemagne ou des régions alpines, on trouve la figure de Krampus.
Ah, Krampus. Oui, j'en ai entendu parler. Mi-homme, mi-bouc, c'est ça ?
C'est ça. Cornu, souvent avec une longue langue pendante, des chaînes, une apparence assez cauchemardesque, il faut bien le dire.
Plutôt, oui. Et son rôle est lié aux fêtes de fin d'année. C'est particulier ?
Très particulier, oui. Krampus, ce n'est pas un monstre solitaire, comme l'ogre de Perrault, caché dans sa forêt. Lui, il est intégré dans un rituel social bien précis. Il accompagne Saint-Nicolas pendant ses tournées.
Le bon Saint-Nicolas et le méchant Krampus.
Exactement, le duo classique. Saint-Nicolas récompense les enfants sages et Krampus, lui, s'occupe des désobéissants. Il les fouette avec des branches de bouleau, il menace de les enlever dans son sac.
Voire de les dévorer comme l'ogre de l'air.
La menace est là, oui. Il incarne vraiment la face sombre de l'autorité, l'aspect disciplinaire, punitif de l'éducation ou de la société. Et le fait qu'on le trouve sur des cartes postales anciennes, les Krampuskarten...
Ah oui, c'est étonnant ça.
Ça montre à quel point il était ancré dans le folklore, dans les traditions locales. Même si c'est une figure terrifiante, il faisait partie du paysage culturel.
Une sorte de père fouettard version extrême. Et si on voyage encore plus loin, le Japon, c'est ça? Avec les Oni.
Oui, les Oni. Ce sont des créatures du folklore japonais, qu'on traduit souvent par démons ou justement par ogres.
Comment ils sont décrits?
Généralement comme des humanoïdes géants, très forts, avec des cornes, des griffes, souvent une peau rouge ou bleue. Ils sont liés aux maladies, aux catastrophes. Mais parfois, paradoxalement, ils peuvent aussi être vus comme des protecteurs. C'est complexe.
Et il y a ce conte, Issun Boshi, qui met en scène un Oni. Ça rappelle un peu notre petit poussé, ce conte, non?
Oui, il y a des parallèles. Issun Boshi, c'est un héros minuscule. Le garçon d'un pouce, littéralement.
Pas plus grand qu'un pouce.
Voilà. Et il est armé d'une simple aiguille comme épée, et il navigue dans une écuelle de riz.
Incroyable.
Et au cours de ses aventures, il finit par devoir affronter un Oni terrifiant. Et l'Oni, évidemment, le voyant si petit, le méprise et hop, il l'avale tout rond.
Le réflexe classique de l'ogre, avaler ce qui est petit. Mais ça ne se passe pas comme prévu.
Non, parce qu'Issun Boshi, petit mais malin et courageux, utilise son arme dérisoire, son aiguille. De l'intérieur de l'estomac de l'Oni, il se met à le piquer encore et encore.
Aïe.
La douleur devient insupportable pour le géant, qui est obligé de le recracher. Et en s'enfuyant, complètement paniqué par ce petit adversaire qui l'a vaincu de l'intérieur, l'Oni abandonne derrière lui un objet précieux, un mallet magique. Et que fait Issun Boshi avec ?
Eh bien, ce mallet peut exaucer les vœux. Alors Issun Boshi s'en sert pour obtenir une taille normale et il finit par épouser la princesse. Donc encore une fois, c'est la ruse, l'intelligence, le courage du petit qui triomphe de la force brute du monstre. Ces exemples, Krampus, les Oni, c'est vraiment éclairant. Ça montre bien que, ben, même si les formes changent, les contextes culturels sont différents, cet archétype du monstre dévorateur, de la menace énorme et affamée, on le retrouve un peu partout.
C'est tout à fait ça. C'est comme si chaque culture avait besoin de donner une forme à cette peur primale. Mais ce qui est frappant, c'est la constance de la fonction.
La fonction?
Oui. Incarner un danger absolu, souvent lié à l'idée d'être avalé, englouti ou à une violence incontrôlable. Et face à ce danger, le héros ou l'enfant qui écoute l'histoire, par identification, doit apprendre à faire face, à déjouer le monstre, à le surmonter.
Et la clé, c'est rarement la force physique.
Très souvent, c'est l'intelligence, la présence d'esprit, la ruse qui permettent de gagner. Pas la confrontation directe. Et ça pose vraiment la question de pourquoi on a besoin de ces figures monstrueuses dans nos histoires? Quelle est leur nécessité psychologique, sociale?
Justement, c'est la question centrale, on y arrive. Quelle est la fonction profonde de l'ogre dans ces contes? Pourquoi on raconte aux enfants des histoires avec des créatures aussi terrifiantes, finalement? Les sources parlent d'identification, c'est ça? Le lecteur s'identifie au héros.
C'est le point de départ, oui. La première fonction de l'ogre, la plus évidente, c'est de faire peur. De générer une peur intense, immédiate. Par son apparence, sa force, sa nature de prédateur anthropophage, mangeur d'hommes, et surtout d'enfants dans beaucoup de contes, le héros ou l'héroïne se retrouve face à cette peur incarnée. Et tout l'enjeu, c'est de voir comment il ou elle va la dépasser. Pour survivre, pour réussir sa quête, pour grandir aussi. L'ogre, c'est l'obstacle ultime. L'incarnation de l'adversité la plus redoutable.
D'accord, susciter la peur pour apprendre à la surmonter.
Voilà. Mais la peur seule, ça ne suffirait pas. Si l'ogre était juste une force invincible et terrifiante, l'histoire serait déprimante, sans issue. C'est là qu'intervient l'intelligence, la ruse, comme l'arme décisive.
L'arme du faible contre le fort.
Exactement. Face à la cruauté et à la force brute, le héros mobilise son esprit. Et c'est là que la fameuse stupidité de l'ogre entre en jeu. C'est cette faille dans sa cuirasse de terreur qui permet au héros de trouver une prise.
Et ça le rend presque comique parfois?
Oui.
Comme le soulignent bien les textes, cette bêtise mène souvent à des situations cocasses. Ça crée un contraste saisissant entre la menace horrible et le ridicule du monstre qui se fait avoir bêtement. Du coup,
Sa défaite devient non seulement possible, mais elle est aussi satisfaisante, jouissive.
Libératrice même.
C'est ce qu'un des textes appelle « la belle leçon », je crois. L'idée que, au final, l'intelligence, la présence d'esprit, le courage de réfléchir même quand on a peur, ça peut l'emporter sur la tyrannie, sur la violence aveugle, sur la bêtise crasse, même quand l'adversaire a l'air invincible physiquement.
Précisément. C'est une leçon fondamentale d'émancipation et de confiance en ses propres capacités intellectuelles. Le conte nous dit, en substance, ne vous laissez pas paralyser par la peur face à ce qui vous semble écrasant.
Utilisez votre tête.
Voilà. Utilisez votre intelligence, votre capacité d'analyse, votre ruse. C'est un message incroyablement puissant, surtout pour un enfant qui se sent souvent petit, impuissant face au monde des adultes ou face à ses propres angoisses. Le conte montre que l'esprit, c'est une arme redoutable, capable de renverser les situations les plus désespérées.
Bon, si on essaye de résumer un peu cette exploration, on voit que l'ogre, c'est vraiment bien plus qu'un simple monstre pour faire peur.
Ah oui, largement.
C'est une figure complexe, pleine de symboles. Terrifiant physiquement, c'est sûr, mais avec cette faiblesse, cette stupidité qu'il rend imprenable.
Vulnérable, oui.
Un personnage qui vient de loin, des mythes anciens, des peurs humaines profondes, mais qui prend des formes différentes selon les cultures à travers le monde. Et sa fonction principale dans le conte, c'est de représenter l'adversité, de pousser le héros à utiliser son intelligence, son courage pour gagner, et d'offrir comme ça au lecteur une leçon d'espoir, de confiance en l'esprit humain.
Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste de réflexion. Si l'ogre des contes, il représente ses peurs ancestrales, la peur de l'autre, la peur de l'autorité dévorante, la peur de nos propres instincts, peut-être aussi. Et s'il représente ces défis qu'on peut surmonter par l'intelligence, par la ruse.
Oui.
On pourrait peut-être se demander aujourd'hui, quels sont nos ogres contemporains? Quelles sont ces forces sociales, économiques, écologiques, technologiques, peu importe, qui nous semblent écrasantes, dévorantes, qui nous font peur?
Intéressant comme question.
Et surtout, quelle forme d'intelligence, quelle forme de courage ou de ruse, collective ou individuelle, on devrait inventer, mobiliser pour y faire face, pour ne pas se laisser dévorer?
Voilà une question qui résonne forte aujourd'hui et qui conclut parfaitement notre analyse de cette figure de l'ogre, si complexe et toujours aussi pertinente finalement. Merci d'avoir partagé cette plongée dans les sources avec nous.